Vous écoutez RTL.
RTL.
Immense et mystérieuse, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Constituée presque entièrement de gaz, elle est balayée par des vents qui soufflent à plus de 600 km/h et des tempêtes deux fois plus violentes que sur la Terre.
Jusqu'à 22h.
Pourtant, elle pourrait nous aider à comprendre le mécanisme de formation des planètes. Et l'un de ses principaux satellites détient peut-être la réponse à la question que l'homme se pose depuis des siècles. Ces vastes étendues de glace ne dissimulent-elles pas des formes de vie extraterrestres ?
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, dans l'espace, en quête de la vie possible ailleurs. Et si elle jaillissait d'une des lunes... Oh, je me suis fait un petit piège là. Jupiter, bienvenue sur Europe, ce satellite naturel est en ce moment le chouchou des astronautes. On va vous raconter pourquoi avec le Parisien Magazine qui consacre en partenariat avec RTL un dossier passionnant à ce sujet. Bonsoir Thomas Leroy.
Bonsoir Thomas Leroy, d'une des lunes.
L'une des lunes. Alors Europe, c'est une lune. Elle se situe où ? À combien de kilomètres de la Terre ?
Alors Europe, elle se situe donc à côté de Jupiter, comme on l'a entendu dans l'extrait, donc environ à 630 millions de kilomètres de la Terre. Donc en fonction, évidemment, vu qu'elle est en orbite, en fonction de sa...
Elle se rapproche, elle s'éloigne de nous.
Exactement.
En fonction de...
630, c'est l'orbite la plus proche,
en fait ? C'est à peu près l'orbite la plus proche, oui, c'est ça.
Alors quand on dit que c'est l'une des quatre lunes de Jupiter, nous qui n'avons qu'une lune, on a un peu de mal à comprendre.
Alors c'est un peu plus compliqué, en fait, Jupiter a 67 lunes. Donc ça, c'est celle qu'on observe aujourd'hui, qu'on a comptabilisée.
Et dans beaucoup sur Jupiter, alors.
Oui. La plupart, elles sont minuscules, hein, elles font un kilomètre, deux kilomètres de diamètre. C'est des petits cailloux, des astéroïdes, en fait, qui tournent autour de Jupiter. Mais c'est vrai qu'il y a aussi...
Comme dans Le Petit Prince.
Exactement, comme
des
dans Le Petit
petites
Prince.
Planètes, on va d'une petite planète à l'autre, c'est drôle ça. Je vous laisse continuer,
oui,
pardon.
Oui, oui. N'hésitez pas.
Hein. Ouais. C'est un peu mon émission aussi. Alors donc, 67 lunes autour de Jupiter. Déjà, moi j'ai appris ça, hein. Je ne le savais pas, je suis passionné d'espace, mais je n'étais pas au courant.
C'est ça, 67 lunes, ouais. Mais on en retient, enfin on va retenir que 4 qui sont beaucoup plus imposantes, beaucoup plus grosses, qui sont peu ou prou celle, la taille de la Lune qu'on connaît, de celle qui gravite autour de notre planète. Donc on est entre 3000 et 5000 kilomètres de diamètre pour ces 4 lunes.
Faites-nous rêver, quels sont les noms, Thomas Leroy, de ces lunes ?
Alors, les noms de ces quatre lunes, c'est Io, Europe, dont on va parler particulièrement, Ganymède et Callisto, en fait, qui sont tous, comme pour tous les objets de l'espace, tous les gros objets, qui sont issus de la mythologie grecque. Donc, on va parler d'Europe, qui était, pour info, une princesse phénicienne.
Ah, voilà. Voilà.
Ces quatre satellites ont un nom, ce sont des satellites galiléens, c'est ça ?
Galiléens, puisqu'ils ont été découverts, comme son nom l'indique, par Galilée, donc l'astronome, en 1610. Donc vous voyez, c'était avec l'apparition des premières lunettes, et il a repéré quatre petites taches minuscules en regardant Jupiter. Et donc c'est comme ça qu'il a découvert ces quatre gros satellites, avant qu'on en découvre évidemment une soixantaine derrière, avec des... moyens plus sophistiqués.
Bien sûr, donc ces quatre satellites plus importants et sont très différents les uns des autres, ou elles se ressemblent, ces quatre lunes principales, on va dire, de Jupiter ?
Elles ont des ressemblances, déjà à peu près leur diamètre, voilà, qui varie, alors ça va de 3005 à 4000, même un peu plus, 5002 kilomètres de diamètre, mais après elles ont aussi leur spécificité, en fonction forcément d'où elles se trouvent par rapport à Jupiter. Pour replacer Jupiter, c'est comme la plus grosse planète de notre système solaire. C'est monstrueux, ça fait le diamètre, c'est à peu près 12 fois la Terre. Donc c'est gigantesque, c'est...
Une planète gazeuse, c'est ça ?
C'est une planète gazeuse, c'est un enfer, pas possible, enfin impossible de trop s'en approcher, sinon vous finiriez en morceaux, au mieux. Et donc elle a aussi un impact justement sur ses propres lunes, et en fonction de d'où se situe la lune, l'impact est plus ou moins important. Donc c'est vrai par exemple quand on prend la plus proche de Jupiter qui est Io, les scientifiques ont découvert que c'était sûrement l'objet le plus actif de notre système solaire, c'est-à-dire une activité volcanique qui est énorme, dont on s'attendait absolument pas à trouver ça sur Io. Tandis que quand on s'éloigne un peu plus, on va plutôt retrouver Ganymède, Callisto ou Europe, ce sont plutôt des terrains glacés. En fait, c'est une énorme croûte de glace qu'on trouve avec des températures qui avoisinent les moins de 100 degrés en moyenne à la surface.
Alors comment Europe, puisque c'est celle qui nous intéresse un peu plus ce soir dans la curiosité, comment Europe, avec ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire une planète glacée, pourrait accueillir une forme de vie ?
Mais justement, c'est aussi ce qui fait la spécificité de ces lunes. Et justement, probablement, on utilise beaucoup de conditionnels, évidemment, puisque c'est des théories scientifiques, probablement que l'influence de Jupiter joue énormément sur l'activité interne de ces planètes. Et donc, ce qu'a découvert une sonde américaine qui a été lancée en 89, qui s'appelle Galileo, justement, qui était partie pour se renseigner un peu sur ces planètes, elle va découvrir, notamment sur Europe, mais aussi probablement sur Ganymède, un océan d'eau liquide sous la couche de glace. Donc, ce qui est absolument incroyable, une découverte assez incroyable, puisque de l'eau liquide, on en trouve peut-être éventuellement des filets sur Mars, et encore, c'est pas bien certain, mais autrement, c'est sur la Terre qu'on trouve des quantités d'eau liquide de cette quantité. Et on sait aussi que l'eau liquide, c'est un facteur primordial et nécessaire à l'apparition de la vie potentielle, ou du moins avoir un univers habitable. C'est ça ce qui fait l'intérêt d'Europe.
Donc ça, c'est Galileo. Et ensuite, le télescope spatial Hubble a fait encore progresser la connaissance de ces lunes, et notamment
c'est
d'Europe.
C'est ça. En fait, il va aider, il a justement renforcé un peu ces informations en prenant des clichés et aussi découvrir des geysers d'eau, en fait, qui sont sortis d'Europe, qui se sont projetés. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on ne les a pas retrouvés depuis, ces fameux geysers d'eau.
Comme si c'était une éruption et qu'il ne se passait plus rien
depuis.
C'est
une espèce de volcan d'eau. Mmh. Et ça aussi, c'est très important parce que ça pourrait signifier qu'il y a une activité volcanique sur Europe. Et activité volcanique plus eau liquide, eh ben, ça peut faire quelque chose de justement d'intéressant quand on recherche la vie extraterrestre.
Allez, dans un instant, on continue d'explorer Europe et ses fumeurs noirs. Ça vous intrigue ? Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Une planète en particulier nous fascine. La plus grosse de toutes. Jupiter.
La curiosité est un vilain défaut.
À ce jour, on a recensé 63 satellites de Jupiter. Galileo a étudié les 4 plus importants, Io, Europe, Ganymède et Callisto.
Jusqu'à 22h.
Les scientifiques supposent qu'à 800 millions de kilomètres du Soleil, aucune forme de vie ne peut exister.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, on part à la découverte d'Europe, l'une des 4 lunes de Jupiter qui pourrait, évidemment, mais plein de guillemets, accueillir et créer la vie. On en parle avec Thomas Leroy, qui est journaliste au Parisien Magazine. Le Parisien Magazine qui consacre un dossier à ce sujet en partenariat avec RTL. Donc, on évoquait les facteurs détectés par ces satellites et télescopes spatiaux qui pourraient, encore une fois les guillemets, permettre à la vie de se développer sur Europe. Il y en a un autre, c'est que l'eau est en contact avec la roche. Pourquoi c'est important, ça ?
C'est ça. Ça, c'est la spécificité d'Europe parmi les lunes galiléennes. Donc, on sait que sous la glace, il y a un océan d'eau liquide. Mmh. Mais vraisemblablement, on sait aussi qu'elle est en contact avec un noyau rocheux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Ganymède, où finalement, la pression a fait en sorte qu'une seconde couche de glace se mette en dessous de l'océan. Donc, l'océan est pris en étau, en sandwich, entre deux couches de glace. Et ce qui est important pour l'apparition de la vie, c'est que schématiquement, pour avoir de la vie, il faut 4 facteurs. C'est-à-dire, le premier, c'est l'eau liquide, donc, comme je l'ai dit. Mm-hmm. Le deuxième, c'est de l'énergie, donc qui peut éventuellement venir des activités volcaniques. Le troisième, c'est des interactions entre cette énergie et l'eau. Et donc ça, c'est très important justement d'être en contact avec la roche, entre l'eau et la roche pour avoir ça. Et le quatrième facteur, c'est le temps. Il faut des millions, des milliards d'années pour avoir ça.
Donc, est-ce que la vie, par exemple, sur Terre, elle a mis combien de millions d'années à apparaître ?
C'est difficile, mais rationnellement, c'est à peu près 4 milliards d'années. On suppose que c'est 4 milliards d'années pour le début, il y a 4 milliards d'années. Donc ça c'est des temps très très longs. Mais voilà, concrètement sur Europe, on a à peu près tous les ingrédients. C'est-à-dire, on a l'eau liquide, on a éventuellement, grâce à ces geysers, on peut se dire qu'on a une activité volcanique, donc une énergie qui se développe au niveau du noyau. Elle est potentiellement en interaction avec l'eau, parce que l'eau est en contact avec la roche, et on a le temps.
Oui, mais sur l'énergie, alors d'accord, l'activité volcanique peut le provoquer, mais en revanche, Jupiter est beaucoup plus éloigné du Soleil que la Terre, si je ne me trompe.
C'est
donc, donc la photosynthèse, qui est l'un des moyens de créer la vie, est possible malgré tout.
Justement, en fait, on ne parle pas de photosynthèse,
d'accord,
puisqu'effectivement, à ces profondeurs-là, on n'a pas le soleil, la lumière n'y arrive pas. Donc on va plutôt parler de chimiosynthèse, donc qui va être un autre procédé potentiel pour créer la vie.
C'est-à-dire que le développement de la vie peut quand même se faire sans lumière ?
Vraisemblablement, oui. En fait, c'est...
C'est la question que se posent les scientifiques, c'est ça, les astronautes ?
C'est une question que se pose, en fait, jusqu'à présent, jusqu'à dans les années 70, personne ne se posait cette question-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des scientifiques américains ont plongé dans les océans sur Terre. Alors, c'était en 1977, et ont découvert ce qu'on appelle des fumeurs noires. C'est-à-dire, ce sont des sources hydrothermales à des profondeurs. Alors là, celles qu'ils avaient trouvées, c'était 2600 mètres de profondeur. Donc, c'est des très grandes profondeurs. Il n'y a aucune luminosité, aucune lumière. Mais ils se sont rendus compte tout de même qu'autour de ces fumeurs noires, on trouvait toute une variété de vie, de micro-organismes, de bactéries, voire même de vers et de crevettes qui s'aggloméraient autour de ces sources hydrothermales.
Ah, attendez, ce sont comme des cheminées, c'est ça ?
C'est ça, c'est des espèces de cheminées en fait issues de l'activité interne de la Terre.
Ouais.
En fait, qui vont cracher du soufre, du ouais. des tout un ensemble de
sels minéraux, c'est ça, qui vont nourrir
tout un ensemble de métaux, de fer, de choses comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que autour de ces cheminées, de ces énormes cheminées qui rejettent des fluides à 400 degrés, on retrouve beaucoup de micro-organismes. Alors qu'on n'a pas de source lumineuse, on n'a pas de ces choses-là.
Donc ça, c'est sur Terre et dans la mer que nous avons ces fumeurs noires, mais on sait s'il y en a aussi sur Europe.
On ne sait pas s'il y en a aussi sur Europe, mais justement, l'intérêt, c'est de dire peut-être que ce qui se passe dans les océans sur Terre, il se passe la même chose sur Europe, parce que finalement, les conditions sont à peu près similaires et les facteurs sont potentiellement les mêmes.
C'est la chimiosynthèse dont vous parliez
c'est
tout
ça.
À l'heure, c'est ça, d'accord. Et alors, on imagine, enfin on espère, moi ça me fascine ces histoires-là, qu'il y a des projets, je ne sais pas, de l'Agence spatiale européenne ou de la NASA pour aller là-bas, pour vérifier cette hypothèse.
C'est ça, donc vous pensez bien que ça aiguisait les intérêts des scientifiques. Donc, et la NASA d'un côté, donc l'agence américaine, et l'ESA, qui est l'agence européenne, ont chacun de leur côté un programme vers Europe. Alors, le programme de la NASA va s'intéresser particulièrement à Europe, celui de l'Agence spatiale européenne, pour faire exactement la même chose, va s'intéresser particulièrement à Ganymède qui est à côté, même s'il va s'occuper aussi un petit peu d'Europe.
Qu'est-ce qu'ils imaginent alors ? Des robots sous-marins, des sondes ?
Alors ça, c'est ce qu'on aimerait bien imaginer, ce qui va être plus réaliste. Alors c'est effectivement des sondes, c'est-à-dire on va aller en orbite autour d'Europe pour faire tout un tas de mesures, pour d'abord vérifier qu'il y a bien un océan, puisqu'on en est quasiment sûr, mais il faut encore refaire des tests et des analyses, essayer de savoir quelle est la composition de cette eau, quels sont les...
Alors pour ça, il va falloir forer le lac gelé, j'imagine,
alors
d'Europe.
On peut faire ça à distance, en fait, avec... C'est un peu compliqué, mais on est capable de capter justement la composition de produits chimiques qui sont émis par des planètes ou par des astres comme ça.
Ah oui, sans briser la glace.
Sans briser la glace, parce que de toute façon, briser la glace, aujourd'hui, c'est techniquement impossible avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, on ne sait même pas quelle est l'épaisseur de la glace.
Il faudrait forer, d'accord. Les sondes, il y a déjà des dates de départ qui sont prévues par les agences.
Alors Thomas se prépare.
Ouais, je vais y aller.
Ça va probablement être autour de entre 2020-2025. Ça va être par là. Ça va être très long puisque ça va mettre à peu près 6 ans pour arriver sur place. Elles vont partir à peu près dans les mêmes eaux entre 2022 par là, quelque chose comme ça. Donc on n'aura pas de réponse avant 2030.
Est-ce qu'on pourra un jour espérer vivre Thomas Leroy sur Europe? Dans très très longtemps.
Je vous déconseille personnellement parce que
on prend pas le billet alors.
Ouais. C'est pas vraiment.
Il fait froid quoi.
Il fait très froid. Les radiations cosmiques, je pense, vous tuent en peu de temps. Tout est possible dans l'avenir si vous êtes bien équipé, bien protégé. Pourquoi pas vivre sous l'eau.
Je vis éternellement. Merci infiniment Thomas Leroy.
Merci beaucoup Thomas Leroy.
C'était passionnant.
Oui, c'est-à-dire dans le Parisien Magazine, on retient que finalement les premiers extraterrestres qu'on va rencontrer sont peut-être des crevettes quoi.
Moi j'en mange souvent alors.
Si c'est votre première idée, vas-y. Dites-moi, c'est la guerre.
Vous écoutez RTL.